Bon, voilà, monsieur, je crois que nous allons pouvoir passer à la seconde partie des interventions. Donc, j'ai demandé à monsieur Ercolet ici de prendre la parole.
Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation très appréciée, d'autant plus qu'en tant qu'organisation philosophique et non confessionnelle, nous sommes les principaux partenaires de ce dialogue interconvictionnel que nous entretenons avec les institutions européennes. En fait, c'est à ce titre que Claude, Martine, moi-même et d'autres amis nous rencontrons et coopérons chaque année à plusieurs reprises. La Fédération humaniste européenne est une organisation regroupant 63 associations laïques, humanistes, de penseurs libres, agnostiques, athées, sceptiques, rationalistes et non-croyants. Dans toute l'Europe et au niveau de l'Union européenne, nous promouvons la laïcité, la liberté de religion et de conviction, y compris le droit de ne pas croire, le droit de changer ses convictions, la liberté de pensée et d'expression qui implique une opposition aux lois interdisant le blasphème, les moqueries ou la critique des religions. Nous défendons le droit de l'homme, la prééminence du droit, l'égalité de traitement et la non-discrimination sur tous les plans. Origine ethnique ou nationale, religion, conviction, handicap, âge, sexe, orientation sexuelle, etc. Et le libre choix des femmes en matière de sexualité et de maternité. J'en suis le président et croyez-moi, il y a des jours et des endroits dans l'histoire où il est un soulagement de pouvoir s'exprimer au nom d'une organisation européenne plutôt qu'en tant qu'italien. On se souviendra du débat sur les prétendues racines chrétiennes de l'Europe. Chrétienne seulement ou chrétien avant tout et au-dessus de tout. Lorsqu'un projet de constitution européenne avait été rédigé. Et comment cela s'était terminé? Le préambule du projet de constitution qui préconisait par la diplomatie française ne citait au début que l'héritage de l'Antiquité classique et celui du siècle des Lumières. L'addition à ceci par la Convention européenne de l'héritage judéo-chrétien, mention neutralisée en tant que possible critère univoque d'interprétation de l'ensemble de la législation communautaire par la mention au même niveau que les deux autres. La suppression de tout le préambule après le rejet du projet de constitution par les référendums français et néerlandais. Ensuite, dans l'actuel traité sur le fonctionnement de l'Union tel que modifié par le traité de Lisbonne, la promotion au rang de principe général, sans opposition même de la part de la France, dont Sarkozy était désormais le président, de l'article 17, déjà cité, au terme duquel l'Union, reconnaissant l'identité et la contribution spécifique des églises et communautés religieuses, entretient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. Cependant, à la fin, suite surtout à une prise de position belge, le même article garantit l'égalité de traitement même aux organisations philosophiques et non confessionnelles, les nôtres. Dans l'eurojargon politiquement très correct, absit iniuria, moi j'apprécie, ce dialogue, enfin pas seulement avec les religieux, est défini désormais comme interconvictionnel. En conséquence, les institutions de l'Union sont tenues de traiter les organisations laïques des non-croyants exactement comme elles traitent les églises et les communautés religieuses. Au niveau des institutions de l'Union, il s'agit donc sur ce point de vue d'un modèle de relations très similaire à celui de la dite laïcité belge. Mais ce modèle ne s'applique pas explicitement aux régulations nationales qui sont totalement au dehors de la compétence de l'Union européenne. Alors les pays qui ont un concordat ont toujours un concordat. La laïcité française ne peut pas être mise en danger par les normes européennes. Je pense que l'un des nombreux obstacles à la compréhension mutuelle, même parmi des individus et des organisations qui partagent les mêmes valeurs, c'est l'absence d'un vocabulaire politique et culturel commun qui serait absolument nécessaire non seulement au sein de l'Union européenne, mais également dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Et peut-être plus encore le manque de conscience de cette absence d'un vocabulaire commun, ce qui entraîne des malentendus très fréquents. Toutes les expressions politiques ont toujours une résonance très différente pour des personnes différentes. Mais parfois, ce sont les traditions nationales qui ont chargé des mots politiques d'un sens difficile à traduire dans d'autres langues et dans d'autres expériences politiques. C'est en partie le cas de la laïcité. Est-ce que la laïcité est une idée neuve en Europe? Pas du tout, je pense, mais cela dépend de son interprétation. Ce qui frappe le plus un Européen non français qui écoute le débat politique ou culturel français, c'est généralement l'accent qui est souvent mis par les personnalités politiques et les intellectuels français sur le supposé caractère français des controversées dans lesquelles ils sont engagés. Le plus souvent, ce qu'ils considèrent comme un débat typiquement franco-français est assez semblable à ce qui est discuté, plus ou moins dans les mêmes termes, même si pas toujours avec les mêmes mots, dans la plupart des pays de l'Europe occidentale. Peut-être que l'Europe est plus française que ne le pensent les Français. Je ne vais pas nier qu'il y ait des caractéristiques de l'idée française de laïcité qui sont assez spécifiques et en général plus exigeantes qu'ailleurs. Et il est également vrai que parfois ces particularités rendent assez difficile la traduction de ces débats dans les langages politico-culturels d'autres pays. Mais je crois que cela a plus à voir avec l'encadrement idéologique ou culturel dans lequel ces débats se déroulent plutôt qu'avec les contenus réels ou la substance des valeurs éthico-politiques impliquées. Ce qui est probablement très particulier au débat français sur la laïcité, c'est que son développement historique est beaucoup plus qu'ailleurs lié au problème de la souveraineté de la nation au-dessus de toute autre appartenance ou allégeance et à une conception de la centralité de l'État-nation qui pose des questions, en particulier à des fédéralistes convaincus comme je le suis moi-même. Je soupçonne que c'est là l'une des clés qui parfois aide les souverainistes populistes ou nationalistes à tenter de détourner la laïcité de ses racines progressistes. La laïcité est partout où ce concept est utilisé, et peut-être même au-delà, dans les pays et les aires linguistiques où le jargon politique est différent, un outil pour organiser le vivre ensemble et protéger la liberté individuelle, la liberté de la majorité désormais presque partout sécularisée, la liberté des minorités et la liberté des minorités au sein des minorités. Et elle exige toujours la neutralité religieuse absolue des institutions publiques, le refus de tout privilège pour les institutions religieuses, la garantie de l'égalité des droits et de l'égalité des dignités sociales pour tous, indépendamment de leur origine et conviction. Pour des raisons historiques, la laïcité est considérée en France comme une composante de l'identité de la nation française, alors que dans d'autres pays, et même dans les pays où elle est considérée comme un principe constitutionnel indisputable, seule une partie du public la considère en soi comme l'une des caractéristiques principales de leur identité éthico-politique ou comme une priorité politique brûlante. Dans une certaine mesure, il me semble, la laïcité française n'implique pas seulement la séparation et la neutralité, mais aussi une certaine prédominance de l'État-nation, même dans certaines affaires religieuses. Une attitude qui remonte peut-être à la tradition du gallicanisme bien avant la Révolution française. Même si la tentation d'imposer une stricte réglementation d'État aux associations religieuses qui l'emporteraient sur le droit canonique fut rejetée lorsque la loi de séparation fut introduite en 1905, des traces de cette tradition sont bien visibles dans l'histoire et ou dans la période contemporaine. Il s'agit tout d'abord du ton général du débat, mais aussi, par exemple, de dispositions plus concrètes, comme l'interdiction de prêcher en langue bretonne, introduite en 1902 au nom soit de la laïcité, soit de l'uniformité linguistique de la nation, ou l'interdiction de célébrer des mariages religieux avant la cérémonie civile, ce qui peut se fonder sur de très bonnes raisons, mais qui est en tout cas une violation du principe de séparation. Un exemple typique de cette approche particulière et de longue durée a pu être observé lorsque la fête juive de Yom Kippour a coïncidé avec des élections générales. Cette simultanéité d'événements s'était produite en deux occasions différentes en France et en Italie. Les juifs orthodoxes et strictement pratiquants croient qu'ils ne sont pas autorisés par la religion à voter avant le coucher du soleil lors du Yom Kippour. En France, on a dit qu'il s'agissait d'un problème privé et que la séparation de l'État et de la religion obligeait l'État de ne pas le prendre en compte. Mais aurait-il été possible de déclencher des élections générales à Noël ou à Pâques, même si aucune règle religieuse n'empêcherait les chrétiens de voter ce jour-là? En Italie, l'initiative de solliciter une modification de la loi électorale qui aurait prolongé l'horaire de vote de quelques heures cette année afin de permettre à la minuscule minorité de juifs italiens orthodoxes et strictement pratiquants de voter après le coucher du soleil avait été prise en effet par les intellectuels et les personnalités politiques les plus laïques d'Italie, bien qu'elle ait été adoptée ensuite par le Parlement à l'unanimité. Je pense que ça dépend du fait que la laïcité en Italie, qui était l'idéologie sur laquelle l'État italien s'était formé au XIXe siècle, était une laïcité qui avait comme but surtout de protéger les minorités. C'est la raison pour laquelle en Italie, plus encore qu'en France, les minorités religieuses autochtones, surtout les juifs et les protestants, ont toujours été et sont toujours aujourd'hui les plus stricts défenseurs, sauf des exceptions naturellement, de la laïcité. Un autre exemple vraiment typique de l'incompréhension qui suscite parfois l'encadrement culturel de l'idée française de laïcité, c'est celui de la question dite du voile islamique, voire des signes religieux. Dans un État laïque, la neutralité devrait être exigée des institutions publiques et des individus qui agissent en leur nom. En théorie, dans l'interprétation française de la laïcité, elle est parfois également exigée des particuliers qui entrent dans la sphère publique, même de ces individus qui sont obligés à y entrer. Mais si l'on écoute les auditions de la commission Stasi, le vrai point n'était pas là. J'avoue qu'en écoutant ces auditions transmises à l'époque par la chaîne publique Sénat, j'ai moi-même entièrement changé ma position initiale. Au début, j'étais opposé à toute interdiction au nom de la liberté individuelle. Je pensais que l'école devait être religieusement neutre et laïque, pas nécessairement les écoliers. Mais au cours des auditions, les vrais points ne me semblaient plus être la défense de la neutralité de la sphère publique, et même pas la question des signes religieux, mais la protection du libre développement des personnalités individuelles des mineurs. Face à une imposition religieuse familiale et ou communautaire très répandue et inimaginable auparavant, qui semblait avoir été établie dans de vastes zones du territoire français, en position qui avait pour objet, plus qu'un signe religieux, un symbole archaïque de soumission féminine, pas exclusivement typique de la tradition religieuse islamique. Le choix, en tout cas, à mon avis, tragique du législateur français, était entre interdire l'usage du voile, même aux écolières qui voulaient vraiment le porter, ou bien accepter son imposition sur celle qui était victime d'une violence silencieuse qui était très difficile à détecter dans la plupart des cas, sauf des situations extrêmes et seulement en cas de résistance obstinée et presque héroïque de la part de la jeune fille. En tout cas, il me semblait qu'un tel usage ou imposition à partir de l'âge de la puberté se traduirait inévitablement en un conditionnement à vie, car tout le monde comprend qu'au fil des années, un vêtement qui doit être constamment porté en public peut être senti comme une seconde peau. Je comprends toutes les objections possibles et même raisonnables. Je comprends les enjeux politiques, les implications, les instrumentalisations possibles et même inévitables, notamment par les xénophobes et les racistes. Mais en tout cas, la véritable et, il me semble, convaincante justification, la raison d'être de la prohibition du voile à l'école publique, quelques heures chaque jour dans la vie de ces jeunes filles, se révélait aux yeux d'autres Européens soucieux de la laïcité et de la liberté, être le respect du libre développement de la personnalité des mineurs et non pas, comme le disaient officiellement les autorités et la politique française, la simple protection de la neutralité presque sacralisée de la sphère publique. Une motivation, ceci, qui serait insuffisante, selon moi, pour justifier une limitation significative de la liberté individuelle. En tout cas, ce n'est pas juste en France qu'il est fréquent d'entendre dire aujourd'hui que les arguments traditionnels de soutien à la laïcité ne seraient plus actuels dans nos sociétés de plus en plus plurielles et diversifiées. La demande de reconnaissance des minorités nécessiterait, selon beaucoup, pas seulement une mise à jour de l'application de ces principes, mais un nouveau paradigme tout à fait différent et plus, comme il dit, inclusif. La laïcité est de plus en plus remise en question à droite et souvent même à gauche au nom soit de notre soi-disant identité, soit d'un multiculturalisme extrême. En fait, les traitements juridiques spéciaux liés à l'appartenance à des communautés spécifiques impliquent presque toujours des limitations de la protection de la liberté et des droits des individus que nous, citoyens ou politiciens, nous choisissons d'imputer à ces communautés comme s'ils devraient y appartenir impérativement. C'est nous qui poussons ainsi indirectement ces concitoyens à se reconnaître aussi exotiques que possible. Comme au temps de la première parution des idées de liberté et de laïcité, les hérétiques, les libre-penseurs, les dissenters, aujourd'hui ce sont les apostates, les croyants modernistes, les femmes, les mineurs, les personnes LGBT qui en assumeraient le coup. La tâche difficile qui est la nôtre aujourd'hui consiste à reconstruire la conscience des valeurs qui innervent le tissu de nos démocraties constitutionnelles, de notre patrimoine constitutionnel européen commun, qui existe même s'il s'exprime avec des mots qui ne sont pas toujours les mêmes, dont la laïcité est une pierre angulaire, et remotiver les raisons d'être en opposition à la tentative populiste de les remplacer par une démocratie illibérale ou par un modèle autoritaire alternatif qui promet prospérité sans liberté dans une société harmonique en tant qu'illibérale. Face à ces puissantes menaces, et surtout face aux élections européennes qui viennent cette année, notre but et notre devoir sont d'agir, dans les mots du poète Yeats, « that civilization may not sink ». Notre but, que la civilisation ne sombre pas. Merci de votre attention.